Dans la presse ce matin, un constat des hausses.
Dans le quotidien Le Monde du 14 octobre 2011, en titre, une question se pose, comment nourrir 9 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050 ? Marc Ménézier déclare dans Le Figaro du 14 octobre 2011, près d'un milliard de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, qui a été célébrée dimanche 16 octobre, sur les 5 continents, la FAO, Food and Agriculture Organization, rappelle que la hausse des prix des denrées alimentaires a fait basculer cette année près de 70 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Alors, qu'en sera-t-il en 2050, quand il faudra nourrir 9 milliards de bouches contre 7 aujourd'hui ? La faim frappe surtout l'Asie, qui compte le plus grand nombre de malnutris, en valeur absolue 580 millions de personnes, et l'Afrique avec le plus fort taux, 30% de la population, soit 240 millions de personnes. Or, sur ces deux continents qui seront aussi les plus peuplés au mi-temps de ce siècle, les rendements céréaliers moyens sont dramatiquement faibles. La première urgence consiste donc à augmenter la productivité agricole dans ces régions. D'après la FAO, la production alimentaire mondiale devra augmenter de 70% d'ici à 2050 pour éradiquer la faim. Ouest France du 15 octobre 2011 ajoute que l'Organisation des Nations Unies s'était engagée à ramener d'ici 2015 le nombre de personnes souffrant de faim à 500 millions. Le tout bien sûr sans dégrader l'environnement et sans augmenter la surface de terre arable au risque de mettre en péril la biodiversité. Toujours dans le quotidien national Le Monde du 14 octobre 2011, une équipe internationale de chercheurs canadiens, américains, suédois et allemands élabore un plan de 4 points pour nourrir une population affamée sans détruire une planète menacée. Le premier point s'agit d'améliorer les rendements agricoles. Cela pourrait augmenter de 60% la production alimentaire en choisissant mieux les variétés de cultures résistantes et adaptées à l'écosystème local. Le second point correspond à optimiser les apports aux cultures. Selon les chercheurs, l'utilisation actuelle de l'eau, de nutriments et de produits chimiques est rarement juste. Il y en a trop dans certains endroits et trop peu dans d'autres. Ensuite, il faudrait privilégier la consommation humaine directe, des cultures destinées à nourrir le bétail ou à produire des agrocarburants, tout aussi productives qu'elles soient, sont autant de nourriture dont les hommes ne bénéficient pas. Et enfin, réduire le gaspillage. Selon la FAO, entre 30 et 60% de la nourriture produite par l'agriculture finit jetée. Patrick Moyon déclare dans le quotidien Ouest France du 20 décembre 2010 que dans les pays du Sud, elles pourrissent faute de moyens logistiques adaptés, puis au Nord, on les gaspille. Une dernière solution qui n'est pas abordée dans l'étude résiderait dans la constitution de réserves alimentaires d'urgence, mais aussi sur le long terme, afin de stopper la volatilité des prix des denrées alimentaires. L'Académie des sciences, elle, propose dans Le Parisien du 11 mars 2011 une sorte de GIEC, groupe d'experts de l'ONU sur le changement climatique, dont la mission serait d'orienter les politiques sur les questions d'alimentation. Une institution indépendante serait chargée de suivre les évolutions et en particulier les signaux faibles, de proposer des scénarios, d'anticiper les dangers et suggérer des voies de solutions.
Au 17 octobre, Sud-Ouest a annoncé une mauvaise nouvelle pour les fumeurs. La hausse de 6% du prix du tabac voulue par le gouvernement prendra effet ce lundi. Il n'y aura plus un paquet à moins de 5,70€. Mais les fumeurs ne sont pas au bout de leur peine, puisque M. François Fillon a en effet annoncé une nouvelle hausse de 6% en 2012, sans en préciser la date. D'après Le Monde, ces augmentations doivent fournir à la Sécurité sociale des recettes supplémentaires de 90 millions d'euros en 2011 et de 600 millions l'an prochain. Initialement prévue le 3 octobre, cette hausse a été cependant retardée de 15 jours. Cette fois, l'État n'a pas misé sur une augmentation des taxes, mais sur un deal avec les fabricants de tabac pour qu'ils augmentent eux-mêmes leurs prix. Tous devaient être d'accord pour que cela soit validé, précise Europe 1. Or, un fabricant belge de tabac a traîné les pieds avant de rentrer dans le rang pour augmenter ses prix. Le Figaro ajoute que sur les 30 centimes d'augmentation moyen des paquets, 24 centimes iront à l'État, 2,5 centimes aux buralistes et enfin 3,5 aux fabricants. En valeur dans l'Express, le marché est en augmentation d'environ 5%, une croissance que se partage l'État avec presque 13 milliards d'euros en 2010, les buralistes avec 8,2% et les fabricants qui remportent 11,8%. Cet article nous apprend que les buralistes et fabricants rappellent qu'une forte augmentation a des effets sur les ventes dans les bureaux de tabac sans pour autant faire baisser la consommation, puisqu'elle incite les fumeurs à s'approvisionner à l'étranger ou auprès des revendeurs à la sauvette qui sont de plus en plus nombreux. Une étude des douanes estime que 20% des cigarettes fumées en France ne sont pas achetées dans les réseaux des buralistes, mais en fraude pour 5% ou légalement 15% dans les pays européens limitrophes, qui sont la Belgique et l'Espagne, où le paquet se vend jusqu'à 30% moins cher. Ces achats qui ont explosé après les fortes augmentations du prix du tabac en 2003 et 2004 et affectent plus particulièrement les commerces frontaliers donnent lieu à des compensations financières de l'État vers les buralistes concernés. Le tabac tue chaque année 60 000 personnes en France, 15 000 par jour dans le monde. Pierre Rousseau dans Le Point, c'est la troisième année consécutive que les cigarettes enregistrent à l'automne une telle hausse, largement supérieure à l'inflation. Pour autant, les ventes n'ont jamais baissé jusqu'ici dans les mêmes proportions. Ainsi, il s'est vendu 54,79 milliards de cigarettes en 2010 contre 54,98 en 2009, soit un maigre repli de 0,3%. Dans le même temps, le volume de tabac à rouler est passé de 7257 à 7598 tonnes, soit une augmentation de 4,7%. Selon les chiffres de l'Observatoire des drogues, l'OFDT, les ventes de tabac ont augmenté de 0,14% en volume. Un rapport parlementaire remis début octobre à la ministre du Budget recommande de faire converger les prix des tabacs en France et dans les États voisins, mais aussi d'engager une réflexion sur la fiscalité des tabacs à rouler pour contrecarrer l'effet de substitution à chaque hausse des prix du cigarette. La Croix informe, les associations anti-tabac estiment que toute hausse inférieure à 10% n'a pas d'effet sur la consommation. En revanche, les bénéfices des fabricants de tabac ont augmenté. L'Office de prévention du tabagisme ironise d'ailleurs sur cette hausse, y voyant une demande de l'État à la filière tabac de bien vouloir augmenter de plus de 100 millions ses profits. Et enfin, Bertrand Beauté dans l'Hebdo, la consommation de tabac ne baisse plus depuis 3 ans. Les freins politiques et les mesures mal appliquées sont pointés du doigt. En gros titre, doit-on renforcer les interdictions ? 3/4 des Français affirment qu'ils souhaitent bannir la cigarette des bords de mer. Et pour cause, le sable, si prisé des enfants, se transforme l'été en cendrier géant. En Suisse, l'interdiction de fumer dans les lieux publics entraîne une situation similaire sur les trottoirs jonchés de mégots. De là à devoir interdire de griller une clope dans la rue, politiquement la mesure semble improbable. Même si, spécialistes en tabacologie en discutent ouvertement, reste qu'il faudrait déjà faire respecter l'interdiction dans les bars avant de songer à aller plus loin. Lors du dernier Montreux Jazz, le café restait largement fumeur, comme au Moloko à Genève, où les clients peuvent toujours s'en griller une au comptoir peinard.